Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui vous accompagne en vacances, au bureau, au village, à la maison, où que vous soyez, pour que 2021 soit une année digitalement excellente. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Pour beaucoup d'entre nous, le début de l'année, c'est le moment des bonnes résolutions. Laisser de côté de mauvaises habitudes, bien redémarrer. Et parmi ces défis du mois de janvier, aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler du mois sans alcool. Cette opération sobriété encouragée en France pour la deuxième année de suite par celles et ceux qui, au quotidien, accompagnent les femmes et les hommes qui soignent leur dépendance aux boissons alcoolisées. Interminable liste de ces breuvages, d'un cidre à 4 degrés à un rhum qui peut dépasser, lui, les 70 degrés, parler de la dépendance à l'alcool sans stigmatiser, sans minimiser, expliquer bien sûr les effets sur la santé, du foie, de la peau, le système cardiovasculaire, l'impact sur la vie sociale, la relation aux autres, l'activité professionnelle, les relations familiales et de couple, moi sans alcool, pour comprendre comment l'on boit, quand se manifeste l'envie ou le manque, et peut-être, à un moment donné, aller plus loin, se demander pourquoi l'on boit. Des habitudes et parfois une dépendance étroitement liée au parcours personnel, mais aussi au contexte dans lequel on vit, nos cultures, le regard des autres, la pression sociale. Un mois sans alcool, occasion aussi de rappeler que dans un pays comme la France, l'alcoolisme constitue la deuxième cause évitable de décès, qu'une consommation excessive d'alcool accompagne dans 40% des cas les violences faites aux femmes et aux enfants, qu'elle est encore responsable du tiers des décès sur les routes. Bref, c'est un véritable problème de santé publique. La dépendance à l'alcool, problème de santé publique contre lequel les pouvoirs publics dans un pays comme la France ont encore du mal à lutter frontalement. Lobbyisme, pression sociale, identité culturelle. Nous allons en parler avec vous, professeur Philippe Jory, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste et addictologue, membre de l'Académie nationale de médecine. Et au cours de l'émission, vous répondrez aux questions des auditeurs de Priorité Santé. Problème de santé publique, parcours singulier pour comprendre le lien entretenu avec ce produit pas comme les autres. Votre témoignage, Stéphanie Braquet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez signé le récit Jour Zéro, publié chez l'Iconoclaste, 725 jours d'une vie nouvelle, d'une vie sans alcool. Et nous retrouverons tout à l'heure en ligne du Togo le professeur Messan Souedjé, psychiatre addictologue aux hôpitaux, au CHU Sylvanus Olympio de Lomé au Togo.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Philippe Jory, dès le printemps dernier, avec le premier confinement, a été signalé chez certaines personnes une augmentation conséquente de la consommation d'alcool, les fameux apéros vidéo. Et puis pour d'autres, à l'inverse, ça a été, comme on dit, ceinture. Cette période a permis de lever le pied. Alors avec le recul, est-ce qu'on sait déjà si cette crise sanitaire a globalement eu un effet sur la consommation ou il est encore trop tôt pour le dire?
Écoutez, a priori, vu les ventes, ça a plutôt augmenté. Tout le monde se dit que ça a augmenté. Alors, il faut voir aussi que l'alcool est un produit anxiolytique, ça calme les angoisses. Et nous sommes dans des circonstances où beaucoup de patients, beaucoup de personnes sont très angoissées, de plus en plus. Et donc, cette fonction d'adaptation qu'a l'alcool, cette régulation d'un état perturbé, c'est vrai que l'anxiété, les insomnies, ça peut être un régulateur, c'est un médicament. Mais c'est un très mauvais médicament, je pense qu'on peut trouver mieux. En tout cas.
Boire pour dormir, c'est pas la solution du tout.
Non,
hein.
Non, il y a deux produits qui détruisent l'architecture du sommeil, et on voit bien quand on enregistre le sommeil, c'est l'alcool et le cannabis. Or, paradoxalement, c'est deux produits qu'on prend souvent pour dormir. Ce sont deux très mauvais produits.
Janvier, Dry January, on se souvient l'an passé du désengagement des pouvoirs publics français. Aujourd'hui, professeur Jory, quelle est la position des autorités? J'imagine que dans le contexte actuel, hein, ce mois sob, c'est pas vraiment la priorité au chapitre sanitaire du pouvoir.
Pas du tout. En effet, c'est pas du tout la priorité. Et il y a aucun soutien des institutions de l'État. Et donc, voilà, on fait ça entre nous.
C'est vous les qui faites le travail.
Oui, c'est les fédérations d'addiction, c'est les patients, les groupes de patients, tout ça. C'est quand même surprenant, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va dire que c'est l'excuse parce qu'il y a la Covid, parce qu'il y a d'autres problèmes actuellement. Mais enfin, bon, les lobbies dont vous avez très bien parlé sont encore très, très puissants.
Professeur Jory, on va vous retrouver dans quelques instants avec des questions concrètes hein, sur l'utilité d'une pause, y compris sur une période assez limitée, également lutter contre un certain nombre d'idées reçues. En ligne avec nous, Stéphanie Braquehay. Alors Stéphanie, votre nom est familier pour de nombreux auditeurs de RFI, puisque pendant de longues années, vous avez couvert l'actualité pour sur l'Afrique de l'Est, sur notre antenne. On se souvient peut-être de la fameuse signature, hein. Attention, imitatrice. Stéphanie Braquehay, Nairobi, RFI. Aujourd'hui, votre témoignage écrit. C'est pour ça que vous êtes avec nous. Jour zéro, le récit de 725 jours sans boire. Première question, comment vous définissez vous-même par rapport à votre rapport passé, hein, je dis bien passé, à l'alcool, Stéphanie? Vous vous dites quoi, comment, quel mot utiliser?
Alors, c'est vrai que l'écriture de ce livre, ça a été aussi cette quête de chercher à me définir, à me qualifier dans cette consommation d'alcool. Et puisqu'on utilisait des mots pour moi, j'ai du coup eu envie de creuser un peu ça. Et moi, je pense que ma consommation était excessive souvent, et elle flirtait entre à risque et nocive. Voilà, mais j'avais pas de dépendance physique, j'avais forcément une dépendance psychologique. Mais dans l'écriture du livre, je me suis aussi rendu compte que je pense que c'est une majorité de gens qui a une relation compliquée à l'alcool. Je pense que si on demande à quelqu'un de dire avec la plus grande honnêteté possible de faire la différence entre un verre plaisir et un verre nécessaire, ce sera pas forcément toujours évident de le faire. Après une journée de boulot stressante, un petit verre, ça fait aussi du bien pour se relaxer, comme l'a dit votre invité.
Mmh. Et donc, on va comprendre qu'il s'agit aussi de définir ce rapport très singulier. C'est important aussi pour vous, hein, professeur Jory, d'essayer d'en finir avec certaines étiquettes. Par exemple, quand vous entendez le terme alcoolique, comment vous réagissez? Vous le percevez comment?
Alors on peut le percevoir comme une identité, c'est-à-dire que bonjour, mais certains groupes fonctionnent comme ça, donc il faut l'accepter.
Les groupes de parents.
Mais au départ, quand on dit t'es un alcoolique, t'es un alcoolo, c'est très stigmatisant, c'est très violent, c'est comme une identité, voilà.
Mais c'est bon pour toutes les maladies, hein, oui, quand on dit aussi, quand on traite de l'épilepsie, y compris du diabète, ça peut étonner, mais dire quelqu'un de le définir comme diabétique, pour certaines personnes, ça heurte.
Ça peut heurter, on a du diabète, on a des problèmes avec l'alcool, mais c'est pas pour ça qu'on est alcoolique, qui est stigmatisant. Ans, qui est un peu péjoratif, et je me bats pour que ça soit pas une identité. Mais je répète que pour certains groupes, c'est les alcooliques anonymes entre autres, enfin surtout, ils sont, pour eux, c'est une pathologie, c'est leur identité. Et il y a aussi des diabétiques, c'est aussi leur identité, ceux qui sont dans des groupes.
Mais c'est aussi l'acceptation de cette singularité. Il faut pas choisir le mot pour les autres. Stéphanie Braquehay, vous aussi, pour vous, c'est important de savoir comment on veut être désigné.
Oui, les mots sont tellement importants, parce que le problème du mot alcoolique, moi, c'est que ça m'a aussi empêché. Si vous voulez, moi, j'avais deux peurs, deux terreurs en arrêtant de boire. C'était de devenir ennuyeuse et qu'on me qualifie d'alcoolique. Et le problème du mot alcoolique, c'est qu'il est utilisé à tort et à travers, si la définition médicale, c'est de dire qu'on est malade, bon, voilà, moi, j'étais pas malade. Et le truc, c'est qu'aussi, il stigmatise ceux qui arrêtent de boire et il persuade ceux qui boivent qu'ils peuvent continuer à boire sans se poser de questions. Comme ça a été le cap pour moi pendant très longtemps, puisque finalement on n'en est pas encore là.
Il y a cette phrase simple, hein, c'est décidé à partir d'aujourd'hui, je ne bois plus d'alcool. Est-ce qu'on vous a demandé autour de vous, Stéphanie, pourquoi est-ce que tu arrêtes?
Ah oui, tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça que moi-même, je mettais en place des arguments bien pensés avant de pouvoir parler, parce que c'est comme s'il fallait se justifier. de ne pas boire. Et alors souvent, alors quand on est une femme, ah bon, mais t'es enceinte, ou alors t'es malade, il faut vraiment, c'est comme si on était devenu une sorte de bizarrerie de pas boire d'alcool, alors que ma sobriété, elle est vraiment choisie, elle est pas subie.
Alors, est-ce que vous avez vu, justement, c'est aussi l'objet de ce mois sobre, comment est-ce que vous avez vu certains effets? Vous dites vous n'étiez pas malade, mais il y a eu quand même des améliorations sur le quotidien, hein, ça fait du bien.
Alors, il y a eu plusieurs améliorations. Donc, il y en a eu une physique. Je m'en étais pas forcément rendu compte tout de suite, mais d'autres m'ont dit que j'avais une plus belle peau. Donc, j'étais très contente. Ça m'a fait faire plein d'économies de crème. Et puis, aussi, ça a des conséquences en fait sur l'humeur, parce que ce que disait votre invité, c'est vrai que ça sert d'anxiolytique, l'alcool. Mais en fait, c'est comme un emprunt. C'est comme si on faisait un emprunt à la banque qu'il fallait rembourser. C'est-à-dire que il faut quand même le repayer, cet emprunt. De, relaxant. Et donc, le cerveau, et ça, c'était aussi intéressant, et c'est ça qui m'a aussi apporté une liberté, c'était de comprendre ce que faisait l'alcool sur le cerveau. Quand on se relaxe, après, le cerveau rééquilibre en renvoyant des hormones qui stressent. Et c'est pour ça que souvent, par exemple, pendant la fameuse gueule de bois, on est déprimé, on a l'impression d'être nul, et on se demande, et on a cette honte sans objet. Et du coup, sur la durée, j'ai lu pas mal d'études qui montrent que la consommation d'alcool change la personnalité. On a plus de tendances dépressives, on est plus négatif, on est plus dans un cycle négatif. Et moi, du coup, je vois que ma personnalité a relativement changé.
Et vous avez reconstruit d'autres choses. On a Eric de Yaoundé qui nous écrit sur Facebook. J'en suis déjà à mon 7e jour d'abstinence. Hein, il lui emploie lui-même ce terme. Je me sens bien dans ma peau. Ça fait plaisir à entendre. Hein. On dit bravo à Eric. Moi, sans alcool, certains se posent la question. Un mois, mais finalement, à quoi ça sert? Il y a toujours des sceptiques pour tout, même quand on fait des efforts. Professeur Jory, les effets visibles, y compris sur une période aussi limitée qu'un mois, c'est quoi les effets visibles?
Je pense que les patients nous le disent, hein. Ils se sentent mieux, ils se sentent plus détendus, ils ont moins d'insomnie, moins de troubles du sommeil, ils sont souvent, la peau, ça joue beaucoup pour les femmes, pour les hommes un peu moins, mais souvent quand on leur dit, vous allez voir, ils disent, ah oui, en effet, c'est vrai. Les troubles de la concentration, c'est majeur. C'est majeur. L'alcool, c'est vraiment ça. C'est un usage thérapeutique de défense pour certains. Fuir le réel, fuir la conscience. Et c'est quelque chose d'important. Et c'est les patients qui ont des pathologies avant l'alcool. L'alcool, ils s'en servent comme d'un médicament. Je crois qu'il faut le répéter. L'alcool, c'est une fonction d'adaptation, je l'ai dit, mais je le répète. C'est pour les insomnies, l'anxiété, l'agressivité. Mais ça aussi... Pour ceux qui ont des problèmes déficitaires de timidité, par exemple, ça aide.
Désinhibé.
Donc, il faut poser la question au patient, il faut poser que la personne se pose la question, finalement, l'alcool, ça me sert à quoi? Ça soigne quoi? Alors, il y a des gens qui sont malades à cause du produit alcool. L'alcool en lui-même est un produit toxique. Mais il y a ceux qui sont malades avant et qui se sont soignés avec l'alcool. La dépression, puisque notre invité en parle, la dépression, on sait que l'alcool est un produit qui déprime. On sait qu'il y a des patients qui étaient déprimés avant l'alcool, qui sont soignés avec l'alcool. Et puis, quand on arrête l'alcool, il y en a qui dépriment aussi. Donc, c'est vraiment la dépression, elle accompagne avant, pendant et après.
Alors, vous restez tous les deux avec nous. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs de l'émission. Témoignages, questions, tout de suite dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et pour commencer, on part pour la République démocratique du Congo, retrouver Emmanuel. Emmanuel, en ligne de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour.
Alors, décrivez-nous la situation. Emmanuel, racontez-nous.
Ok, moi, c'est Emmanuel, j'ai 34 ans. Je vis en République démocratique du Congo, plus précisément à Lubumbashi. Je voulais un peu vous demander de l'aide, parce que je sens que je suis un peu dépendant. Bon, pas comme tel, je vais expliquer ma situation.
Allez-y.
C'est-à-dire, je n'arrive pas à passer une journée sans consommer une bière. C'est-à-dire, un minimum de 2 et maximum de 4-5 bières chaque jour, et cela après le boulot. Quand je n'ai pas encore pris, vous allez dire, donc je me sens souvent comme si c'était nerveux, je me sens fatigué. Donc, je sens un besoin qui manque. Et quand je prends comme ça, je me sens bien. Et souvent, quand j'entre dans des bistrots, souvent, je suis habitué à boire dans le quartier. Et je suis motivé encore si je vois les gens avec qui je bois souvent. Je peux avoir une idée de prendre 2 ou 3, mais quand je suis à côté des gens, je m'emballe, je vais à 5, 6, et demain, je dois travailler. Je me réveille des fois avec la gueule de bois, fatigué le matin, et la journée est foutue comme ça. Je voulais un peu, si le docteur peut m'aider, à modérer Parce qu'arrêter, c'est pas facile d'arrêter, du coup.
Déjà, réduire votre consommation, Emmanuel. Je vais donner la parole au professeur Joury, mais d'abord, cette fameuse gueule de bois, vous en témoignez dans votre livre, Stéphanie Braqueux. Hein. Vous décrivez ça comme la troisième guerre mondiale entre vos neurones. Vous avez connu ça. Vous avez réussi aussi à vous en débarrasser. Le matin, c'est un vrai fardeau, quoi.
Oui, c'est un fardeau. Mais ce qui m'a vraiment libérée, c'est aussi de comprendre pourquoi et comment je buvais et qu'est-ce que c'est la gueule de bois en fait. Qu'est-ce que c'est ce qu'on ressent chimiquement dans le cerveau. Et encore une fois, je l'ai évoqué là juste avant, mais de comprendre ça en fait, de comprendre qu'en fait, ce qu'on fait, c'est d'emprunter à un taux d'intérêt hyper fort de la détente pour le lendemain qu'il va falloir repayer. Bah du coup, ça change un peu la perspective parce que on sait qu'on sera endetté le lendemain.
Alors, il y a une question, Emmanuel. Vous dites, je voudrais réduire, je voudrais pas arrêter. Pourquoi vous voulez pas arrêter?
Je ne dis pas que je veux pas arrêter, parce qu'arrêter, je vois que ça ne sera pas très facile.
Mm-hmm.
Je veux y aller par palier.
D'accord.
Je veux y aller par palier et jusqu'à arrêter un jour. Parce qu'arrêter, du coup, je sens que ça peut créer d'autres problèmes. Mm-hmm. Je veux d'abord que je ne sois pas, entre guillemets, dépendant et que au finish, j'arrête.
Mais, est-ce que vous avez peur, si vous arrêtez, de perdre ceux que vous considérez comme vos amis de bistrot?
Oui.
Vous avez déjà essayé avant?
Souvent, quand j'essaie, d'arrêter.
De réduire?
Oui.
Ça marche pas?
J'ai essayé de réduire, ça marche 2-3 jours et puis
Vous retombez. Professeur Philippe Joury, justement, ce test de 3 jours, on en parlait tout à l'heure avec le mois sobre. Si on a tenu déjà 3 jours, on a déjà gagné un petit combat.
On peut dire ça comme ça. Faut jamais dire que ça sert à rien. C'est évident. Mais surtout, on a gagné la compréhension qu'on n'arrive pas plus longtemps. C'est ça qui est important, de se rendre compte que le cerveau, il est plus fort. Se rendre compte que malgré toute la bonne volonté qu'on y met, on n'y arrive pas. Et je pense qu'à partir du moment où on a fait ce diagnostic, on n'y arrive pas tout seul, parce que le cerveau, il est plus fort. C'est vraiment le craving, le besoin qui vient en plus. Il faut se faire aider. Et je pense que ce monsieur, il faut voir qu'est-ce qu'il a autour de lui pour se faire aider, s'il y a des groupes de parole, s'il y a des médecins, s'il y a des médicaments qu'on peut prendre. Après, tous les patients que je vois, ils me disent la même chose, j'ai pas envie d'arrêter, parce que il y a la partie, ce qu'on appelle l'usage festif ou récréatif de l'alcool qui existe, et ces fonctions-là, les patients ont du mal à dire plus jamais. Donc déjà, dire que l'abstinence, elle est obligatoire, c'est difficile, mais pour ces patients-là, pour ce monsieur-là, je pense qu'il faut qu'il se fasse aider. Il y a des médicaments qui peuvent l'aider à réduire, mais déjà, il a pris conscience qu'il peut pas y arriver tout seul.
Emmanuel, est-ce que vous imaginez aller en parler avec votre médecin généraliste, ou est-ce que vous savez si dans la communauté, il y a des groupes qui peuvent vous accompagner?
Dans la communauté, non. Je peux voir un médecin généraliste. Il peut m'aider.
Mais vous savez, je suis sûre que sur Lubumbashi, une ville aussi grande de la RDC, je suis sûre que si vous cherchez un petit peu, par exemple, même demander à votre médecin généraliste ou aller voir une structure hospitalière en psychiatrie, je suis sûre qu'il y a des groupes qui travaillent avec eux et ils pourront vous mettre en lien.
Oui, il faut vous faire aider.
Okay.
Avec l'écoute et avec l'aide des autres. On vous remercie beaucoup pour votre appel. Une auditrice qui a tenu à témoigner dans Priorité Santé, c'est vous, Marielle, bonjour.
Bonjour, Caroline.
En ligne de Brazzaville, racontez-nous, parce que votre témoignage est important, allez-y.
Oui, moi, comme tout à l'heure, j'ai lu le thème. Un mois sans alcool, il y a ça. C'est pas facile, parce que moi, je consomme de l'alcool tous les jours. Tous les jours, mais est-ce qu'un jour, je pourrais faire un mois sans prendre de l'alcool? Est-ce que je peux prendre cette décision-là? Alors, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile, parce que je bois tous les jours. Je dis bien tous les jours. Quand je bois pas, je me sens très à l'aise, mal à l'aise.
Mal à l'aise. Vous buvez à partir de quelle heure dans la journée, Marielle?
Je commence à partir de 11h. Jusqu'à 17h, 18h.
Vous buvez à la maison?
Oui, je bois à la maison, des fois avec des amis.
Et comment votre famille regarde tout cela?
Mais oui, les parents ont fait des remarques, m'ont fait des remarques. C'est pas bon, tu es une femme, il faut arrêter. Bon, même si tu ne peux pas arrêter, mais il faut consommer avec modération. Tu peux prendre une bouteille ou deux par jour. Enfin, faut faire se passer, quoi, passer des jours.
Alors, vous buvez depuis longtemps. Vous disiez, si j'imagine arrêter un mois, ça va être compliqué. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter ou est-ce que vous avez déjà essayé de réduire?
Réduire, c'est pas facile. À moins si je vais quelque part, là où il n'y a pas de l'alcool. Vous voyez, je peux aller dans un village, mais il n'y a pas d'alcool, oui, je peux résister. Mais quand je suis dans une grande ville comme Brazzaville ou Pointe-Noire, d'Olivier, je consomme vraiment de l'alcool sans...
Est-ce que ça menace certains de vos projets, certaines des choses que vous avez envie de faire dans l'avenir?
Oui, oui, tel que là, je dis, bon, une fois, je peux porter une grossesse pendant cette période. Est-ce que je vais tenir un mois, deux mois sans problème? Sera facile. Est-ce que ça sera facile?
Professeur Jory, hein, on sent de la lassitude hein, dans ce témoignage de Marielle. En même temps, cette difficulté, y compris de penser, de s'engager dans l'arrêt, et puis ce projet d'enfant, tout ça, c'est une épreuve, c'est compliqué.
Je trouve déjà formidable qu'elle en parle.
Absolument.
Qu'elle puisse en parler, en plus à la radio. Visiblement, il y a une motivation. Visiblement, elle a repéré que la volonté, ça suffit pas, qu'il faut la motivation. Et je pense qu'il faut, comme pour tout le monde, enfin en tout cas pour elle, à partir du moment où elle n'y arrive pas, il faut qu'elle se fasse aider. Il y a des aides, et on a déjà dit tout à l'heure, mais c'est important, l'écoute, la parole, une aide médicamenteuse complémentaire, on peut l'aider. Bien entendu, il faut qu'elle se fasse aider. Mais pour ça, déjà, elle a fait la première démarche, c'est de pouvoir en parler.
Marielle, justement, ça a été difficile pour vous de nous appeler, d'en parler, de dire oui, je bois trop. C'est vrai qu'en plus, dans certaines régions du monde, et un peu partout d'ailleurs, l'alcoolisme au féminin, cette consommation ou cette dépendance, quand on est une femme, c'est perçu peut-être encore différemment. Ça a été dur pour vous?
Vraiment très dur. Dur, c'est pas... facile. Bon, moi, je me demande, est-ce que demain, 3 matins, je vais m'en sortir?
Oui. Vous en avez déjà parlé à un médecin?
Non, pas encore.
Est-ce que vous vous sentez capable de le faire maintenant? Vous avez déjà parlé à RFI, ça a été très fort de votre part, on vous dit bravo. Est-ce que vous pourriez maintenant aller voir un médecin, lui dire, voilà, moi, j'ai des projets, j'ai la vie devant moi, j'ai envie de changer cette page de ma vie, de passer à autre chose, mais moi, je vais vous dire franchement, docteur, je suis courageuse, mais j'y arrive pas toute seule. J'ai besoin de vous.
Oui.
Vous vous sentiriez capable de faire ça?
Oui. Oui. Oui, bien sûr.
Stéphanie Braquet, le regard, on va dire, des hommes, le regard masculin sur les femmes qui boivent, est-ce que vous pouvez en parler?
J'en parle pas spécialement dans mon livre, mais moi ce que je voudrais dire c'est que on n'est pas forcément obligé de. Je dis pas qu'il faut pas aller voir un médecin quand on consomme trop, mais d'abord il y a vraiment des degrés dans la consommation. Et ce qui est vachement important aussi c'est de comprendre pourquoi on boit, et puis c'est une démarche vachement très introspective aussi. Donc même avant d'aller chercher de l'aide, lire des choses dessus, lire des récits, des témoignages pour se sentir moins seul, parce que la manière dont on parle de l'alcool est toujours très dramatique, avec forcément on parle de médecins, on parle de maladies, mais je veux dire la majorité de la planète qui boit a un problème avec l'alcool, parce que l'alcool lui-même est un produit addictif. Donc c'est très difficile d'estimer à un moment donné qu'on a atteint une consommation problématique.
C'est ce qu'on a entendu pourtant, Stéphanie, avec nos auditeurs. Hein. On a entendu que s'ils nous appelaient aujourd'hui, c'est qu'ils étaient arrivés à un point où cette démarche en solitaire, eh bien, c'était plus possible à tenir et qu'ils avaient besoin d'une sorte. Et c'est ce qu'on a souvent dans cette émission avec les échanges, un appel à l'aide et un encouragement.
Ce que je voulais dire, c'est que on peut aussi mettre en place des astuces pour tromper son cerveau, que il peut y avoir des petites choses à faire pour remplacer. Par exemple, la dépendance, c'est aussi beaucoup des rituels. Donc, quand on boit toujours à l'heure de l'apéro, on peut par exemple décider de mettre autre chose dans son verre. On peut faire des petits tests avec soi-même aussi. Par exemple, essayer de pour le premier auditeur d'aller dans une soirée ou de rencontrer des gens sans boire, et ensuite pourquoi pas, je sais pas moi, de tenir un journal et de voir comment on s'en sort. Je dis pas que ce sont des solutions, mais je dis que ça peut être aussi des choses auxquelles on pense pas toujours.
Professeur Philippe Jory, justement, sur ce besoin et cette, on va dire, ce sentiment un jour de dire, ben, je dois me faire aider, je vais y aller.
Moi, je pense que c'est important, à partir du moment où on demande de l'aide, bah, qu'il y ait de l'aide. Mmh. Alors, ce que dit notre invité, c'est important aussi. Mais quand on est soignant, quelle que soit la place qu'on a, c'est vrai qu'on en parle de ça. Vous allez au bistrot, ben, écoutez, changez de trottoir, changez de bistrot. Mmh. Vous avez des amis, bon, bah, écoutez, malheureusement, il faudra peut-être pendant quelques temps ne plus les voir. Mmh. Ce sont des conseils, c'est ce qu'on appelle des thérapies comportementales. Mmh. On va changer le comportement. Bien sûr, c'est important. Mais tout ça, si la personne appelle à l'aide, je pense que c'est difficile de lui dire de trouver toute seule cette aide. La preuve, c'est qu'il n'y arrive pas. Il y a quand même un certain nombre de personnes dans le monde qui ne lisent pas, par exemple. Alors, lire un livre, c'est bien pour ceux qui lisent. Mais il y en a quand même beaucoup qui lisent pas. Mm-hmm. Il y en a quand même beaucoup qui n'arrivent pas à trouver ce qu'a trouvé Stéphanie Braquenay. Mais bon, c'est bien, elle l'a fait et c'est très bien pour elle. Moi, je veux dire que tant mieux. On pense qu'il y a à peu près 10 à 20% des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool qui s'en sortent tout seuls. Mm-hmm. Mais il en reste 80%, 90% qui n'y arrivent pas. Mm-hmm. Et c'est cela qu'il faut qu'on dise, il y a de l'aide, on peut vous aider.
Encore une fois, c'est vraiment des démarches singulières avec ce qu'on entend dans cette émission, des personnes qui ont besoin d'écoute. En tout cas, c'est votre cas aussi, Cassepa. Vous êtes en ligne de Colvézi, toujours en RDC. Cassepa, bonjour.
Bonjour.
Et vous, en fait, votre appel à l'aide, c'est pas forcément pour vous, mais c'est pour quelqu'un de votre entourage très très proche.
Oui, oui. Tout à fait, ce n'est pas de mon entourage de loin, c'est ma femme qui est devenue alcoolique tout le temps, oui. Alors, j'ai tenté de tous les moyens, ça n'a pas tenu. Elle avait débuté juste quand elle avait 35 ans, elle prenait 2-3 verres. Mm-hmm. Un certain temps, aujourd'hui, elle a 42 ans, mais elle est allée jusqu'à 3-7 bières, donc c'est compliqué. Alors, quand je me suis dit, non, je peut-être chez vous, j'aurais un peu quelque chose qui peut m'aider à comment...
Un début de réponse, Cassepa, ça crée des disputes à la maison, ça complique votre relation?
Oui, ça crée des disputes, parce que elle est fait derrière mon dos, et il y a des fois, quand je quitte, je demande la question, comment est-ce que tu es ivre? Non, elle n'accepte pas. Alors moi, ça me déplaise. Du fait que moi, je ne bois pas, je ne fume pas, alors ça me complique.
Est-ce qu'il y a des moments où votre épouse, on va dire, est plus sobre, en tout cas, elle n'est pas en état d'ébriété, et vous en parlez tranquillement, ou vous n'en parlez que quand ça va mal?
Oui, il y a des fois qu'on se parle, parce que je me rappelle les trois mois passés, là, 2020, elle avait un peu pris la conscience de ce que c'est avec l'alcool, elle prenait seulement les sodas et consorts, mais ça n'a pas tenu 2 mois, il a rechuté. Mmh. Alors, ça m'embête.
Ça vous embête, mais malgré tout, vous restez très attaché à elle. Vous l'aimez toujours, vous avez envie que ça s'arrange.
Je l'aime toujours, mais du fait qu'on a déjà eu des enfants avec elle, il n'y a pas moyen de rompre. Mais je suis en train de faire tout pour qu'elle cesse à boire, parce qu'elle est déjà dans les joues de cette malédiction. Mmh. Moi-même, je suis un fervent cadibiste, je ne bois pas. Mais ça me dit, parce qu'il y a des disputes, il y a des fois, elle n'arrive pas à comprendre mes conseils, alors je me suis dit, bon, peut-être j'aurai d'autres astuces qui pourront m'aider afin qu'elle se débarrasse de cette
mauvaise habitude, de cette dépendance. Professeur Philippe Jory, l'impact de la consommation sur l'entourage, la dissimulation, les disputes, qu'est-ce que vous pouvez dire à Cassepa?
Je peux dire que d'abord, on n'est pas égaux vis-à-vis de l'alcool. Il y en a qui vont devenir dépendants, il y en a qui vont pas le devenir. On voit bien qu'on n'est pas égaux. C'est vrai, c'est polyfactoriel, l'alcool. Il y a le cerveau, et puis il y a l'entourage, et puis il y a la culture. Là, on est en plein dans ce qu'on appelle la double peine. Cette patiente, cette dame, elle a une souffrance. Elle n'arrive pas à arrêter, elle est obligée. Voilà. Et puis, on l'accuse de manquer de volonté, on dit qu'elle manque, elle fait semblant d'arrêter. Quand elle a bu, elle dit qu'elle n'a pas bu. Donc, en fait, elle est dans une double peine, vraiment, qu'il y a une grande souffrance, on sent bien. Et le problème, c'est que l'entourage, si on leur dit pas, par exemple, cette femme, elle se lève pas le matin en disant « Aujourd'hui, je vais boire et emmerder mon mari ». C'est plus fort qu'elle. Il faut le savoir, c'est important. Parce qu'une fois qu'on sait ça, on va peut-être l'avoir différemment.
Quand on veut, on peut, c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Pour cette patiente-là, en tout cas, c'est pas vrai. Mm-mm. On est vraiment dans la double peine et c'est très dur. Et moi, je demande d'avoir l'entourage, je demande d'avoir le mari, la femme, les parents, les enfants, pour qu'on puisse en discuter. Mm-hmm. Et puis je leur dis ça, je leur dis vraiment, vous savez, quand ils se lèvent le matin, ils ont pas décidé, aujourd'hui je vais boire et je vais emmerder tout le monde.
Mm-hmm. Est-ce que vous imaginez qu'ACEPA accompagne votre épouse pour voir une infirmière, pour en parler, pour voir un médecin pour en parler? Est-ce que vous imaginez ça, l'accompagner?
Oui, oui, je l'imagine, parce que j'avais tenté d'autres voies et ça n'a pas tenu. Maintenant, il faut peut-être voir un médecin.
Vous avez tenté quelle voie? La religion?
La voie divine.
La voie divine.
La religion, mm-hmm. Oui, oui, la religion.
Mm-hmm. Il y a certaines personnes auprès de qui ça peut fonctionner. Il y a des groupes de parole auprès de certaines églises également. Mais il y a également plusieurs voies. Si l'une ne marche pas, aller vers une autre, ne pas se fermer des portes pour justement essayer de progresser. Ça peut être aussi effectivement en parler, tenir un journal, en parler à des amis, changer des habitudes. Il n'y a pas une solution sur mesure, professeur.
Non, il y a beaucoup de solutions et c'est vraiment des traitements, les prises en charge, on va dire, à la carte. Et moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des succès différés. Mmh. Et si on se dit ça, on est un peu plus optimiste.
Stéphanie Braquehet, le poids de l'alcool sur la relation avec l'entourage, avec la sphère professionnelle, avec la sphère familiale, est-ce que c'est personnellement quelque chose qui a pesé dans votre décision ou c'était vraiment quelque chose, une démarche de bien-être individuel?
Bah c'est les deux. Mmh. C'est vrai que quand on arrête de boire, c'est là qu'on se rend compte de la place énorme que prend l'alcool dans nos relations sociales, dans certaines sociétés, parce que c'est aussi un liant. Donc il y a quand tout le monde autour de vous boit et souvent d'ailleurs de manière excessive, quand vous arrêtez de boire, forcément vous vous posez des questions sur comment vous allez interagir avec ces personnes après. Donc il peut arriver parfois qu'on perde des amis. D'ailleurs, je pense au premier auditeur qui parlait de ses amis au bar. Mmh. Quelquefois, on se rend compte aussi que quand on a des conversations jusqu'au bout de la nuit, peut-être que ces conversations, quand on les aurait sobres, on les arrêterait bien avant parce qu'elles sont pas forcément très intéressantes. Et du coup, ce dont on se rend compte aussi, et c'est important de le dire, c'est que d'arrêter quelques jours ou quelques semaines, ça permet aussi d'avoir confiance en soi. Parce qu'on se dit qu'on n'a plus besoin de cette béquille, on n'a plus besoin de ce filtre, et que du coup, la réalité qui nous faisait peur ou certains pans de la réalité, finalement on est capable de l'assumer, pas toujours très bien. Il y a des bouts de ciel gris et des bouts de ciel bleu, mais voilà, c'est la vie qui est comme ça.
On se redécouvre. Bon courage en tout cas, cassez pas. Très bonne journée à vous. On va partir pour le Togo, Cara, retrouver Jonas. Bonjour Jonas.
Bonjour Président Santé.
Alors expliquez-nous Jonas, dans quelles conditions vous avez commencé à boire?
Voilà, je suis Jonas, j'appelle du Togo Kara. J'ai 27 ans. Et c'est juste après le bac, en 2014, que j'ai commencé par prendre un peu notre boisson locale. C'est une boisson issue de la fermentation, quoi, à partir de graines de sorgho. Donc, on a commencé ça comme ça, et avec le mélange de la bière. Quand je prends ça comme ça, je deviens un peu agressif, violent. Et parfois, si j'avais un petit problème à moi, je n'arrive pas à m'exprimer. C'est quand je prends l'alcool que ça m'amène maintenant à en vouloir à qui que ce soit, quoi.
Vous avez envie d'arrêter, Jonas?
Moi, oui, j'essaie d'arrêter. Il m'arrive même parfois de prendre du recul. Je fais 2 ou 3 jours, mais après ces 2 ou 3 jours, l'envie me vient. Et quand l'envie me vient, que je suis seul, quand je sors, j'arrive à... Si je prends une calebasse ou deux, c'est-à-dire sous forme de 4 verres, soit 5, 6 verres comme ça, je suis cool, je retourne à la maison et m'asseoir. Mais si je suis avec les amis, ça continue. Ça devient excessif, quoi.
Mmh. Professeur Philippe Jory, hein, c'est toujours ce fameux délai qui se répète, 3, 4 jours. On n'arrive pas à dépasser le cap.
C'est pour ça que il y avait des associations qui préconisaient bien avant le mois sans alcool une semaine d'arrêt. C'est Vie Libre, l'association Vie Libre qui disait une semaine sans produit, essayez. Et parce qu'on sait que c'est 3, 4 jours, on peut tous y arriver plus ou moins. Mais au bout de 3, 4 jours, le cerveau il réclame. Et ça s'allume et ça demande et ça devient très difficile. Et là c'est plus fort que Mais c'est pareil que les troubles alimentaires, hein. C'est, moi j'aimerais le dire, parce que très souvent on retrouve chez les patients qui ont des problèmes d'alcool, à l'adolescence on retrouve des problèmes de conduite alimentaire, que ça soit l'anorexie ou la boulimie. C'est pareil, je veux dire que si on ne vous attache pas, vous êtes obligé d'ouvrir le réfrigérateur et de tout manger qu'il y a dedans, pour la boulimie en tout cas. Et c'est pareil, c'est le produit qui change, mais le cerveau il fonctionne de la même façon.
Jonas, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous dites, j'ai envie d'arrêter. Peut-être que votre entourage aussi fait pression sur vous pour arrêter. Vous êtes prêt à faire quoi pour arrêter? Vous avez dit, j'ai essayé 3 jours, ça n'a pas marché. Là, qu'est-ce que vous voulez faire?
Actuellement, moi, le vrai problème, c'est que je veux vraiment, je veux arrêter complètement. Je veux arrêter complètement. Et je suis en train de me demander, je ne sais pas si le docteur peut m'aider. Je suis en train de me demander, c'est pas parfois... la masse, soit l'amitié, le civisme là, qui fait que l'homme n'arrive pas, c'est-à-dire à un peu oublier ces trucs-là. Je me pose beaucoup de questions, quoi. Et je suis en train de prendre plusieurs. Je me dis, il est temps que je cesse d'avoir des relations amicales qui ne me servent à rien. Il est temps que je cesse tel. Tout ceci me vient en tête, quoi. Et d'un autre côté, je me dis, je ne voudrais pas abandonner un ami peut-être que j'ai il y a de cela 3 ou 2 ans comme ça. Donc tout ça là me vient, je ne sais pas réellement quelle décision il faut prendre.
Vous travaillez Jonas ou pas?
Non, je me défends tout simplement. Je n'ai pas encore un travail sous la main.
Vous n'avez pas de travail sous la main et vous vous occupez comment? Vous faites une activité sportive parce que vous dites je vais aller boire avec des amis, mais ça occupe pas toute la journée. Vous faites quoi de vos journées?
Non, dans la journée, il y a des jobs comme chez nous ici, quand on sort les jeunes, il y a des petits jobs qu'on amène, surtout même sur les chantiers, parfois, on va...
De l'informel, voilà. On fait de l'informel, mais à côté de ça, vous faites de l'activité physique?
Oui, régulièrement.
Régulièrement? Et ça veut dire que c'est en fin d'après-midi, par exemple, que vous allez boire, c'est une fois que vous avez fait toutes vos activités?
Soit même à la sortie même des activités sportives. On se dirige en même temps sous les cabarets.
Vous dirigez vers le bar. Professeur Jory, pour Jonas, hein, il est jeune, 27 ans, il a déjà cette habitude en lui, il a envie d'arrêter. Le déclic vers la volonté, des fois on entend j'ai eu un déclic. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça dépend des gens? Et vous lui donneriez quel conseil? Je sais pas, ça va être encore un peu tôt pour moi, pourtant il est déjà presque 11h. Quel conseil? Allez voir qui dans ce cas particulier?
Mais je crois que vous avez donné des pistes, hein. C'est vrai que par exemple le sport est quelque chose qui peut sécréter des endorphines, mais faut faire beaucoup de sport et tous les jours. Ça peut remplacer l'alcool au niveau du manque, au niveau de l'addiction. Et puis pour ce jeune déjà, moi je trouve que c'est bien qu'ils appellent, qu'ils en parlent. La moitié du chemin il est fait. Le déclic il existe bien sûr. Stéphanie Braquenet, elle a eu un déclic. Les gens ils ont un déclic. Moi, je demande toujours, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi vous venez aujourd'hui? Voilà, il y a eu un déclic.
Il y a un moment donné où c'était trop.
Oui, c'était trop, ou il s'est passé autre chose. Bon.
En tout cas, on dit merci beaucoup à Jonas pour son appel. On prend un dernier auditeur au Tchad, Bokassa en ligne avec nous de Djamena. Bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, vous aussi, hein, vous êtes jeune, vous avez 29 ans. Racontez-nous quel est votre rapport avec justement ces boissons alcoolisées. Racontez-nous.
Oui, Madame Caroline, tout a commencé, c'était en 2012, quand je suis revenu au village, on s'est trouvé avec les amis dans un débit de boissons. On buvait de l'alcool. Probablement en 2015 que j'ai commencé à devenir dépendant à l'alcool. Ça a eu des conséquences sur mon parcours universitaire en ce moment-là. J'ai commencé à boire de 11h du matin jusqu'à 20h. Je ne bois pas seulement de l'alcool traditionnel, aussi des whisky. Aujourd'hui, je ne travaille pas. J'ai été un ancien en ce temps-là. Je buvais trop d'alcool à la veille. Arrivé en classe, je donnais juste des exercices à faire aux élèves. Tout fatigué, je ne pouvais pas donner mon cours comme j'aurais souhaité.
Alors, vous avez fait des études, Bokassa, vous avez eu un métier, et à cause de l'alcool, on va dire, vous avez perdu tout ça. Là, il est quelle heure chez vous? Il est 9h50?
Il est 10h.
Il est 10h. Ça veut dire que dans une heure, vous allez boire, là?
Dans une heure, je me rentre là-bas.
Vous allez vous rendre dans le bistrot dans une heure et vous allez commencer à boire, vous le savez. Vous le savez, déjà, vous êtes... C'est votre occupation de la journée.
Bon, pour le moment, comme je n'ai pas de travail, c'est mes occupations quotidiennes.
Oui, mais en fait, vous n'avez pas de travail parce que aussi vous avez bu. Donc, c'est l'un et l'autre qui se chassent et qui s'entremêlent.
Oui.
Et quand vous arrivez le soir, puisque vous dites aussi vous buvez du whisky, ça coûte cher hein, quand même de boire du whisky. Si vous n'avez pas de travail, ça doit être assez compliqué. Je vais avoir une expression un petit peu familière. Ça veut dire que le soir, quand vous vous couchez, vous êtes complètement ivre. On dit parfois même ivre-mort.
Tellement ivre, fatigué, ivre, je n'arrive même pas justement avec madame à la maison.
Ça abîme votre relation avec votre femme.
Oui.
Mmh. Professeur, une dernière question, Bokassa, vous avez envie d'arrêter?
Bon, non seulement ça, j'ai un ami qui boit plus que moi.
Ouais.
J'ai déjà tenté d'arrêter plusieurs fois, mais je me sentais plus en forme. J'ai réussi à tenir une semaine quand même.
Une semaine.
Mais le problème est que l'envie est très forte. J'ai fini par recommencer.
Oui, mais je vous ai bien posé la question. Je n'ai pas dit est-ce que vous avez réussi à arrêter. Je vous ai demandé est-ce que vous avez envie d'arrêter.
J'ai vraiment envie d'arrêter.
Vous avez vraiment envie, c'est ça. C'est ça, Bokassa. Professeur Philippe Jory, là, on a vraiment un témoignage. On est en plein dedans. Là, la dépendance, elle est nette, elle est affirmée. Il y a le début de destruction de la vie sociale. Là, on dit les voyants sont rouges. Là, il y a alerte.
Oui, complètement. Mais je dis comme pour les autres, il appelle, il appelle à l'aide,
bah
je
oui,
pense qu'il faut répondre.
Il décrit clairement en plus la situation.
Il décrit clairement la situation, son cerveau, c'est toujours le même problème, quoi. Il n'arrive pas à dire non. Et alors, bon, quand on fait partie de certains groupes, on dit qu'il y a la technique de « aujourd'hui, je ne bois pas », plutôt que de dire « toute ma vie, je ne vais plus boire ». Donc il peut tout à fait se dire « aujourd'hui, j'ai appelé la radio, je vais ne pas boire ». Et puis, moi, en tant que médecin, en tant que soignant, je ne peux pas dire autre chose que pour ce patient-là, qu'il faut qu'il se fasse aider. Il y a des béquilles. On parlait de béquilles, l'alcool est une béquille, il y a des médicaments qui sont des béquilles. Il y a des comportements qui peuvent être des béquilles, comme le sport. Voilà, chaque cas est différent. Mmh. Je lui dirais quand même peut-être qu'on peut lui donner un traitement aussi. Il existe des médicaments pour pouvoir aider à mettre de côté l'alcool et à se protéger.
Et encore, trouver le soignant, professeur Philippe Jory, oui. Trouver le soignant qui ne vous juge pas, parce qu'il y a encore des gens qui se permettent de ne pas considérer ce problème comme une maladie, comme une dépendance, mais comme, je vais dire le mot, comme un vice.
Oui, donc ça c'est un gros problème, c'est que normalement un soignant il est là pour soigner et pas pour juger. Mais bon, malgré nous on juge, et le problème de l'alcoolique, on le juge. Et c'est dommage, et donc si un soignant, vous avez l'impression qu'il vous juge, et faut peut-être en voir un autre. Alors après c'est le problème de combien il y a de soignants disponibles aussi. Alors je connais pas à N'Djamena la population médicale ou soignante, ça peut être une infirmière, ça peut être une aide-soignante.
Absolument, on n'a pas besoin d'aller voir forcément un addictologue.
Non, sûrement pas.
Voilà. Bokassa, bon courage. Très bonne journée à N'Djamena. Stéphanie Bracker, on a entendu tous ces témoignages, tous ces appels à l'aide. Le fait de raconter votre parcours, vos difficultés, votre cheminement personnel, votre livre vient juste d'être publié malgré tout. Est-ce que vous avez eu des retours?
Oui, j'ai eu des retours et j'en ai tous les jours en fait, même lors de mon passage en France. J'en avais aussi quand j'étais à Nairobi avant de partir. Il y a vraiment tout le monde se sent concerné en fait, aussi parce que justement, voilà, il y a pas ce vocabulaire stigmatisant et que il y a cette reconnaissance que dès qu'il y a une consommation d'alcool, il peut y avoir potentiellement une dépendance et que du coup, la plupart des gens en lisant mon livre ou avant de lire mon livre, s'interrogent aussi sur eux-mêmes et sur leur consommation. Et c'est les deux derniers témoignages m'ont fait penser à un très beau livre que j'ai lu il y a pas longtemps, écrit par un écrivain kényan qui s'appelle Jackson Biko, qui est aussi un blogueur extrêmement brillant. Et il a cette phrase magnifique. Il a écrit un livre qui s'appelle Drunk, donc ivre. Il l'a écrit en anglais. Ce serait vraiment bien que ce soit traduit en français. Et il raconte en fait la consommation d'alcool effrénée des hommes et le fait que ce soit tellement lié à la masculinité à Nairobi. Et là, cette phrase, c'est comme une famille se barre, les hommes viennent se nourrir de l'énergie d'autres hommes, tous sont là pour satisfaire leur addiction jamais assouvie. C'est une immense pièce remplie de frustration, mais aussi d'hilarité et de camaraderie. Et du coup, je ne vais pas évidemment donner la fin, mais le personnage principal, Larry, découvre qu'en fait, tous ceux qui prenaient pour ses camarades, justement, dans le bar, ben, ne sont pas là quand il a vraiment un problème lié à sa consommation d'alcool et que ce n'est pas vraiment des amis.
On appelle ça des piliers de bar, pas des amis. Ne plus compter ses verres, Stéphanie Braquet, c'est quoi? C'est être libre?
Oui, c'est être libre parce que d'abord il y a eu la compréhension de pourquoi on consommait et donc c'est pas une question de volonté. Moi, j'ai pas arrêté par volonté. J'ai arrêté en faisant des compromis avec mon cerveau, en comprenant à peu près comment il fonctionnait et en essayant de voir s'il y avait pas des brèches pour essayer de le... Et du coup, le fait de d'arrêter ce choix, en fait, le drame du choix dans le cerveau qui provoque l'agitation et l'incertitude, c'est aussi une liberté parce qu'on n'a plus à se poser la question quand on sort. Ok, je m'arrête à 2 verres, mais allez, 2 verres et demi, ou allez, 3, comme voilà la plupart de mes amis autour de moi, etc.
Malgré tout, vous l'écrivez hein, tous les jours. Est-ce qu'on se pose la question? Est-ce qu'il y a encore cette question? On ne va pas le faire. Vous écrivez boire juste une petite goutte pour savoir qu'on peut continuer à arrêter. Vous dites non. Et dire non, c'est aussi être libre. Ça, il faut le dire parce que souvent, en renonçant à certains actes, y compris des actes de dépendance, hein, ça se passe aussi quand on arrête de fumer, on a l'impression qu'on perd de sa liberté. C'est toujours bon de rappeler que c'est exactement l'inverse.
Mais c'est pour ça que c'est important en fait de réfléchir sur pourquoi on consomme et pourquoi on arrête, parce que ce qu'on pense comme une privation est en fait un cadeau. On perd beaucoup plus à boire si on a une consommation problématique qui a des conséquences problématiques. Encore une fois, je dis pas que la consommation d'alcool en elle-même est un problème, mais dans ces cas-là, c'est d'avoir un conseil des anciens dans sa tête et de se dire bon, alors quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et il faut décortiquer.
Professeur Jory, hein, c'est un acte de liberté, c'est contraignant, c'est difficile, c'est pénible, mais on va vers quelque chose de positif.
Moi, je pense qu'il ne faut pas parler de contraintes. Enfin, je veux dire que, oui, c'est positif, et c'est la liberté de ne pas boire, c'est la liberté de ne pas fumer, c'est la liberté d'être libre de choisir aussi. Voilà, donc, parce que l'addiction, comme son nom l'indique, c'est une addiction, c'est vraiment une contrainte et un enchaînement. C'est terrible.
Et l'écoute aussi, ça compte, l'écoute de l'entourage, l'écoute de ceux qui vivent avec vous, justement.
Il faut dédramatiser, faut vraiment déstigmatiser le produit, faut vraiment pouvoir en parler, c'est bien qu'on en parle.
Éviter cette double peine dont vous parliez tout à l'heure. Merci à tous les deux hein, d'avoir répondu à notre invitation. Stéphanie Braquet, merci beaucoup. Le titre de ce livre, Jour Zéro, tout en sobriété, en honnêteté, publié chez l'Iconoclaste. Merci à vous, professeur Philippe Jory, pour vos réponses, votre écoute auprès des auditeurs de Priorité Santé. Et merci à toute notre équipe, à Cétou Samak et Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurence Snow. Demain, nous allons parler de l'épreuve de la maladie pour la fratrie. Faire face au handicap ou à la maladie grave d'un frère, d'une sœur, quel risque, quel accompagnement? On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sounou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce digitalement innovante. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.